DW. Magazine Santé.
Toutes les questions un peu d'organisation de la riposte, d'amélioration de la riposte, l'acquisition un peu de l'expertise et de l'expérience et de tous les équipements qu'il faut pour pouvoir donc offrir des soins de santé adéquats aux populations, ça c'est une problématique qui est là. Le financement du système de santé, donc on part de loin.
Covid-19, Ebola, fièvre de Marburg, pour ne citer que celle-là. En Afrique, nombreux sont les pays qui doivent faire face à différentes pathologies avec des moyens limités. Un fait que reconnaît, vous venez de l'entendre, le docteur Tierno Baldé. Il est responsable adjoint de la réponse à la Covid-19 au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous reviendrons avec lui tout à l'heure sur tous ces défis sanitaires sur le continent. Mais avant, nous irons en RDC pour parler d'une initiative destinée à prendre en charge les femmes enceintes et les enfants. Bonjour à toutes et à tous. Carole Assignon au micro, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine Santé. Le 22 mai dernier, le volcan Nyiragongo, près du lac Kivu, à la frontière orientale de la RDC avec le Rwanda dans le parc national des Virunga, avait donné des frayeurs à ses riverains avec des écoulements de lave, une éruption qui avait fait 32 victimes, des dégâts matériels et entraîné le déclenchement d'un plan d'évacuation de la population de la ville de Goma. Depuis, ceux qui avaient quitté la ville sont de retour. Certains ont perdu des proches, d'autres leur domicile. Mais pour beaucoup, à la difficulté d'accès par exemple à l'eau potable s'ajoute celle des services comme les soins de santé. Une ONG composée de spécialistes de la santé s'est ainsi donnée pour mission de suivre de près les femmes enceintes, mais aussi les enfants, vivant dans le camp de déplacés qui accueille les victimes de l'éruption volcanique. Zanem Leti Zaidi, notre correspondant dans la région, s'est rendu dans ce centre qui peut recevoir environ 100 femmes enceintes par jour et où les consultations sont gratuites. Son reportage.
Au camp de déplacés de Munigi, dans les territoires de Nyiragongo, au nord des Goma, les femmes déplacées font la queue pour leurs examens prénataux. Après avoir passé plusieurs mois sans aucune assistance sanitaire, ces femmes peuvent désormais bénéficier d'un suivi médical. Foraini Bouchaguzi est l'une des femmes suivies par des sages-femmes dans ces centres. Elle est très émue d'être ainsi prise en charge.
Je suis venue ici pour bénéficier de ces soins qui sont gratuits. Je suis enceinte et je n'ai jamais fait d'examen, faute de moyens. On est déplacé et depuis qu'on est dans le camp, on a cessé de vaquer à nos occupations. Ces soins gratuits arrivent à un très bon moment.
Cette initiative émane de l'ONG PBM Health, une organisation congolaise qui veut notamment porter assistance aux femmes. C'est ce qu'explique Amoura Zinga, l'initiatrice du projet.
Les besoins de la femme sont énormes quand on pense à la femme enceinte, quand on pense à la santé de la femme enceinte. Et quand on s'occupe de la femme enceinte, quelque part on réduit la mortalité maternelle et infantile. On veut aussi que cette femme enceinte, c'est aussi la dignité de cette femme enceinte, elle est déjà déplacée, elle est déjà éparpillée, en détresse. Et donc on a vraiment voulu venir en aide à la femme enceinte. Elle est déjà vulnérable au fait. En étant enceinte, elle est vulnérable.
4 x 7.5. 4 x 7.5. 30. Ok. Un comprimé matin, demi le soir.
Le centre situé dans les camps de déplacés peut recevoir une centaine de patients par jour, des femmes enceintes, mais aussi des enfants qui viennent se faire examiner après avoir présenté des signes de maladie d'origine hydrique. Une fois qu'ils sont confirmés positifs aux maladies hydriques ou à d'autres pathologies, ils peuvent facilement être pris en charge par l'organisation. Bien que certains enfants soient déjà traités, les cas de choléra se multiplient, ce qui inquiète le docteur Freddy Biamungu, l'un des pédiatres de PBM Health.
Les plus grands problèmes que nous avons rencontrés, c'est notamment ces problèmes de diarrhée, vomissement chez tous les enfants. Mais nous pensons qu'il y a à craindre, et ce qu'il y a à craindre, c'est notamment une épidémie qui pourra ravager tous les camps, et c'est notamment le choléra, parce que tous les enfants que nous avons pu avoir, ils ont comme symptômes diarrhée, vomissement.
Malgré les difficultés, l'organisation poursuit ses activités avec des ressources limitées. Le nombre de jours de travail du personnel soignant a par exemple été réduit. C'est là au détriment des patients qui doivent être suivis quotidiennement, comme l'a dit Amoura Zinga.
On a eu, pour la pédiatrie, beaucoup de médicaments qui manquaient. Parce qu'en fait, on a trouvé des cas que nous, on n'était pas prêts pour ces cas. On a trouvé beaucoup de femmes enceintes avec des IST, donc des infections sexuellement transmissibles, qui ont besoin, par exemple, des médicaments pour les soigner. Donc, du coup, ça, c'est des vrais défis qu'on a eus. Et donc, du coup, on fait appel à différentes organisations existantes qui sont là, ici à Goma, qu'on puisse réunir nos forces ensemble et qu'on puisse, au fait, offrir des soins complets pour pouvoir, au fait, venir en aide à cette femme, à cet enfant, à la jeunesse, à la jeune fille.
Des centaines de femmes et d'enfants ont déjà bénéficié de l'aide de l'ONG PBM Health, mais elle ne peut à elle seule assister toutes les personnes ayant besoin de soins. Il y a toujours des femmes qui accouchent dans de très mauvaises conditions, faute de soins adéquats dans la région. Zanem Netizaidi à Goma pour la Deutsche Welle.
DW.
Les difficultés d'accès aux soins de santé, ce problème n'est pas propre qu'à la RDC qui doit, comme d'autres pays, faire face par ailleurs à des épidémies comme la COVID-19 ou encore Ebola. Alors comment sur le continent s'organise la riposte et quelles leçons tire-t-on déjà de ce qui est fait sur le terrain? C'est de cela dont on va parler à présent avec le docteur Thierry Nobaldé, responsable adjoint de la réponse à la COVID-19 au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Il revient d'abord sur les avancées, mais aussi les blocages au sujet de la lutte contre la COVID-19.
Qu'on le veuille ou pas, quand même l'Afrique a réussi quand même à pouvoir passer au travers de cette pandémie-là sans trop de conséquences par rapport à ce qui était anticipé auparavant.
Alors, il y a eu beaucoup, il a beaucoup été question de l'inégalité justement dans l'accès aux vaccins contre la COVID-19, du manque de solidarité, de partage d'informations et de données, d'échantillons biologiques, de ressources, de technologies. Comment sur le continent compte procéder pour inverser concrètement cette tendance?
Cette solidarité internationale que nous, l'Organisation mondiale de la santé a appelée de tous ses voeux depuis maintenant toute l'année dernière, là, je pense qu'elle commence à se matérialiser. Par exemple, on sait qu'au mois de mai ou au mois de juin, compte tenu de la situation qui se passait en Inde, on n'a pas pu recevoir tous les vaccins qui étaient promis donc par l'initiative COVAX. Mais là, on constate vraiment une augmentation importante de l'arrivée de ces vaccins-là. Pour quelques chiffres-là, par exemple, ne serait-ce qu'au mois d'août, nous avons eu pratiquement près de 16 millions donc, de doses de vaccins qui sont arrivées. Et puis par la suite, donc tous les accords qui se passent aujourd'hui là pour pouvoir mieux comprendre les éléments positifs donc de la riposte au COVID-19 en Afrique ici et pouvoir capitaliser sur cela, ne pas faire du copier-coller, mais tenant compte des réalités contextuelles en Afrique, je pense que c'est là où on est rendu aujourd'hui.
Alors ça fait des mois que le directeur général de l'OMS dénonce l'inégalité vaccinale en ce qui concerne l'Afrique, mais on a le sentiment quand même qu'il n'est pas vraiment écouté.
Oui, c'est vrai, on part de très très loin. Les vaccins ne sont pas produits en Afrique ici. Là, on vient de voir une production qui a commencé au niveau donc de l'Afrique du Sud. Et clairement, on sait qu'il y a eu des retards très très importants donc dans la distribution équitable de ces vaccins-là. Donc oui, il faut l'admettre, mais en même temps aussi, il faut admettre aussi que des efforts sont en cours. Là, actuellement, on voit qu'il y a seulement 4% de la population africaine donc, qui est vaccinée, donc comparativement à près de 50% dans de nombreux autres pays. Donc c'est une problématique majeure. Cette lutte-là, elle est vraiment multiforme, elle est multidimensionnelle. Il y a les vaccins qui jouent un rôle, c'est sûr qu'ils permettent de faire obtenir une immunité collective, mais en même temps, aujourd'hui, quand on voit la fatigue des populations dans l'adoption des mesures, par exemple, de santé publique, c'est quelque chose aussi sur lequel il faut adresser l'engagement donc, de toute la communauté, de tous les États, donc pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience pour que l'on puisse chacun à son niveau jouer son rôle.
Alors vous donniez tout à l'heure l'exemple de l'Afrique du Sud en termes de production de vaccins sur le continent africain. Il y a par exemple également en Afrique de l'Ouest des pays comme le Sénégal qui a conclu récemment un accord pour pouvoir produire des vaccins, notamment à l'Institut Pasteur. Est-ce que c'est des pas dans la bonne direction ?
C'est des actions vraiment salutaires. L'Afrique du Sud, le Sénégal, quand par exemple, pour la petite histoire, cette pandémie elle a commencé, il n'y avait que ces deux pays-là qui étaient capables de faire donc, le diagnostic biologique de la COVID-19. C'était le Sénégal à travers l'Institut Pasteur et l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on voit que tous les pays, les 50 pays d'Afrique sont capables de le faire. Donc oui, ce n'est pas dans la bonne direction. Et comme je vous le disais, si on est capable aujourd'hui de remettre, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, la santé publique au cœur des agendas politiques, au cœur des agendas économiques, je pense qu'on pourra passer vers une autre étape là pour pouvoir donc offrir des services de santé de qualité et de certaines d'une certaine envergure donc aux populations qui en ont le plus besoin. Donc nous espérons que des actions comme ça vont aussi pouvoir se multiplier dans d'autres pays, comme par exemple le Nigeria ou encore d'autres pays par exemple qui sont relativement avancés où il y a déjà une industrie pharmaceutique et médicale qui est déjà assez bien implantée.
Alors, l'Afrique n'est pas confrontée qu'à la pandémie de COVID-19. Hein. Il y a une multiplicité de crises en termes de santé sur le continent. Je pense par exemple à Ebola ou encore au virus Marburg. Et quelles sont les avancées en termes de transfert de connaissances sur le continent à ce jour pour pouvoir faire face efficacement à toutes ces crises sanitaires?
L'Afrique a une certaine expérience en matière de gestion de ces différentes épidémies. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont l'habitude d'organiser des réponses donc, au niveau des épidémies, qui ont l'habitude d'organiser des campagnes de vaccination. Donc, c'est des éléments sur lesquels donc, les gens ont réussi à capitaliser.
Au-delà des campagnes de vaccination, des campagnes de sensibilisation, en termes d'infrastructure, vous direz qu'actuellement, sur le continent, il y a un progrès. Par exemple, il y a plus de laboratoires d'analyse.
Oui, il y a plus de laboratoires d'analyse. Par contre, par exemple, les capacités de prise en charge médicale restent encore très, très modestes. Les soins de santé, en fait, critiques de réanimation, elles sont encore extrêmement faibles. Vous verrez dans chacun de ces pays-là, peut-être on aura un service de réanimation avec juste quelques lits de réanimation. Il faudrait donc que les gens puissent investir davantage, que les pays puissent investir davantage et avoir donc une capacité de prise en charge pour toutes les formes de sévérité un peu de ces maladies-là.
Les précisions du docteur Thierno Baldé, responsable adjoint de la réponse à la COVID-19 au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de transfert de technologie, notez également que le laboratoire allemand BioNTech compte installer des sites de production de vaccins ARN messagers en Afrique, notamment au Sénégal et au Rwanda. Il s'agira en l'occurrence de produire sur le continent des vaccins à ARN messager contre le paludisme et la tuberculose qui sont en cours de développement. C'est sur cette information que s'achève votre magazine Santé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.